Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur.
Bonsoir, les bébés dinosaures sont avec vous. Avec leurs pattes maladroites sur la table de mixage.
Pour une heure et demie.
Rock des années 70.
Oui, et je dois m'excuser platement pour une énorme boulette que j'ai commise hors antenne, car j'arrive à commettre des boulettes aussi hors antenne.
C'est très fort.
Puisque j'ai sauvagement coupé la diffusion de l'émission La Foire des Ténèbres. Mais alors totalement involontairement, je vous assure, alors, je m'excuse auprès de notre estimé collègue de La Foire des Ténèbres et puis auprès des auditeurs, mais je n'avais pas du tout reconnu l'émission et je ne savais pas que Jeff diffusait, programmait l'émission depuis quelque temps, et sans doute jusqu'à la rentrée. Jeff, qui s'est, boss de Canal Sud, qui s'est démené pour qu'il y ait encore des émissions pendant tout le confinement, là.
C'est Jeff qui bosse pour Canal Sud, c'est ça que tu veux dire.
C'est ça. Et donc, voilà, j'ai mis les Pretty Things à la place. Alors, c'était Guns N' Roses, je crois, qui était diffusé. Le son était très bas dans les enceintes de la radio. Je n'ai pas du tout reconnu La Foire des Ténèbres, évidemment. Il m'aurait fallu plus d'indices. Et donc, j'ai coupé et j'ai envoyé les Pretty Things, qui ne sont pas très souvent programmés dans La Foire des Ténèbres. Donc, les auditeurs ont peut-être eu un choc. En écoutant du rock 60s.
En fait, disons que le producteur de l'émission a eu un choc.
Oui, ça c'est certain, oui, il me l'a fait comprendre, oui, mais je comprends aussi sa réaction.
On est très très, ben très
oui.
Désolé.
Voilà, eh ben oui, mais vraiment c'était totalement volontaire, et bon, la prochaine fois il a promis de nous prévenir à l'avance, alors sachant que moi il faut me prévenir triplement.
Les bébés dinosaures, même dans les ténèbres, ils sont foireux. Et bon, qu'est-ce que tu veux
Je n'ajouterai rien, tu as tout dit.
Sinon, où est-ce qu'on en est? Tu vois, tu sais, chaque fois qu'il y a un mort, c'est du, comment dire, c'est du pain sur la planche pour nous, ou du pain entre quatre planches, enfin bref. Steve Priest vient de casser sa pipe. Alors, c'était pas le mec le plus connu du monde, mais il avait été le bassiste de Sweet pendant toute leur carrière, hein, ou enfin, du moins leurs grandes années. Et du coup, allez, c'est un petit prétexte. On va se repasser du Sweet, on va se passer un de leurs plus gros succès, Ballroom Blitz, que tout le monde connaît avec son introduction, là. Kitsch à souhait. Ça a dû sortir en 73, ce truc, si mes souvenirs sont bons. Oui, et puis voilà. J'ai envoyé le mauvais vinyle. Toutes mes excuses.
Soothing, and they all started grooving. Yeah, 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 yeah.
something, touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. The wick of her eye.
Oh yeah, it was electric, so frantically hectic, and the band started leaving, 'cause they all stopped breathing.
Yeah.
And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I don't know what you mean, and turned into a ballroom blitz. Ballroom blitz.
The Sweet, et d'ailleurs le bassiste Steve Priest est le premier qui est mentionné quand le chanteur demande à tous les membres du groupe s'ils sont prêts, hein. Are you ready Steve? C'est le début des paroles de cette chanson sur le fond de batterie de Mick, je crois que c'était le nom du batteur.
Oh, c'est un tube mémorable, repris par les Wampas notamment.
Oui, dans une version... comment dire, assez modifié.
Voilà, un peu rockab, psycho.
Et puis ça devient une chanson sur Ballroom Blitz dans le
oui,
texte.
Oui, oui, ouais, c'est ça.
Ballroom Blitz, pardon. Et rappelons que c'était un des multiples tubes dus à la plume du duo de producteurs Chin et Chapman. Alors j'oublie toujours leur prénom, Mike Chapman et Nicky Chin, je crois.
Eh bon, on va écouter les variations maintenant. Leur deuxième album, Take It or Leave It, enregistré à Memphis, dans les studios Stax et Ardent, un studio réputé de Memphis, produit par Don Nix, et avec des notes de pochette totalement enthousiastes de Sacha Rince, qui prédisait au groupe un succès international monstrueux qui n'a jamais eu lieu, bien sûr. Mais bon, effectivement, quand on écoute le disque, bon, c'est... C'est pas leur meilleur, celui d'après. Je connais mal le premier, Nador, je l'ai pas écouté souvent.
Ah, Nador, c'est grand.
Ouais.
Mais Nador, moi, j'adore le suivant. Si tu veux, il se laisse aller à fond, un côté hard rock, un côté hendrixien. C'est beaucoup plus rugueux que le deuxième. Et je préfère, hein, largement.
Mais je l'ai qu'en cassette, celui-là. Je réécoute.
Et le troisième, c'est mon rock'n'roll.
Mon rock'n'roll, il y a des moments grandioses, quand même.
Il y a une phase grandiose. Voilà. Et la deuxième phase...
Et Take It or Leave It, bah, c'est pas mal. Hein. C'est bien joué. La production est un peu, je trouve, touffue, quoi. C'est pas très... je sais pas. Il passait beaucoup de temps, quand même, je pense. Et puis les morceaux, bah, c'est pas mal, mais c'est pas non plus à tomber par terre, quoi. Hein. On va s'en écouter. Alors, on a beaucoup passé Silver Girl, le premier morceau. Je vais vérifier dans notre listing. Et par contre, je crois que celui-ci, on n'a pas dû le passer encore. C'est le dernier de la face A, il s'appelle Take the Time to Live. Et c'est un honnête boogie avec des bonnes guitares.
Quelque part, le leader du groupe, en tout cas, il s'est toujours présenté comme ça, c'était Marc Tobali, le guitariste, et il faut dire que, bien sûr, le chanteur râlait hein, contre la férule de Marc Tobali, il a fini par être viré, ou pour partir, je ne sais pas. Mais Tobali, quand même, se débrouillait bien la guitare.
Oui, oui, oui. Voilà. Joliev avait une super voix. Après, il a un accent américain, là, anglais, qui est un peu...
ouais.
Mais bon... c'est un des bons morceaux de ce disque qui n'est pas quand même grandiose. Les variations donc.
Eh bien, 45 tours pourris. Tu me diras, j'ai déjà passé Ballon Blitz, mais c'est un 45 tours de Kim Foley sorti en 1970.
Ah bah, Ballon Blitz ne peut pas quand même avoir l'étiquette de 45 tours pourris.
Non, non, non.
Parce que les 45 tours pourris, c'est beaucoup plus pourri que Ballon Blitz.
Voilà. Et là, le 45 tours, il est pourri physiquement, mais il est excellent musicalement, à mon avis. C'est un truc que j'ai acheté sans pochette, tu vois, qui a dû subir tout un tas d'avanies dans sa vie. Donc on vous demande d'excuser un peu son état. Et on va s'écouter un morceau qui s'appelle Born to Make You Cry. Et je crois que c'est l'époque où il collaborait avec Mars Bonfire. Donc évidemment, tous les morceaux ressemblaient un peu à Born to Be Wild.
Donc c'est Kim Foley, je ne sais pas si tu l'as dit.
Oui, c'est Kim Foley.
D'accord.
Donc à l'époque, il collaborait avec Mars Bonfire, c'était très, très péchu. Mais quelque part, au bout d'un moment, tous les morceaux ressemblaient à Born to Be Wild. Bon, c'est excusable dans la mesure où ça a été quand même le grand moment en tant qu'auteur de Mars Bonfire.
Et puis Kim Foley tournait en boucle un peu hein, quand il avait une idée, souvent boum, puis il la reproduisait
Oui. jusqu'à ce que ben, tu sais, il avait retenu la leçon, refait le même truc, un jour ça va marcher. Ok, Kim Foley.
Everybody turn up your radios. Everybody get ready. This is it. I am of the sky. We'll teach you how to fly. I was born to make you cry. I was born to make you cry. Make you cry. We are now as one. Now I have to run.
Kim Foley, Born to Make You Cry, avec la collaboration de Mars Bonfire, donc qui fut le guitariste de Steppenwolf, mais qui quitta le groupe avant le premier album, en leur laissant quand même Born to Be Wild.
Mauvaise inspiration.
Voilà, il était le, bah, je sais pas en fait que, comment ça s'est passé. Il s'appelait Edmonton de son nom de famille. Il s'appelait pas Bonfire, bien sûr. C'est, Bonfire, c'est un feu de joie. C'est pas vraiment un nom de famille très répandu. Et il était le frère du batteur, Jerry Edmonton.
Voilà, je sais qu'il y a Edmonton dans les Steppenwolf. D'accord. Eh bien, tout à l'heure, on s'écoutera un groupe qui a un lien ténu, mais un lien quand même avec Kim Foley. Mais, en attendant, on va s'écouter un tube de 68, plus exactement. Donovan, Hurdy-Gurdy-Man, que je pense on n'a jamais passé. Donovan, qui était déjà très connu, et puis qui avait sorti, je crois, 7 ou 8 albums déjà. Il a été très productif quand même. Hein. Il a démarré au milieu des années 60. Là, en 68, il avait déjà 7 ou 8 albums.
Il y avait un succès énorme dans les années 60. Ouais. C'est un peu inexplicable, quelque part.
Il avait quelques mélodies accrocheuses, des trucs, des morceaux que tu n'oublies pas après, quoi. Après, dans ces albums, je connais pas tous, hein, mais c'est un peu inégal. Hein. Des fois, il y a des morceaux qui tirent à la ligne, on va dire. C'est le cas aussi sur l'album Hurdy Gurdy Man. Mais il y a quand même ce 45 tours un peu bizarre, là. Et alors, tu sais qu'il y a toute une histoire autour des musiciens qui ont joué sur ce 45 tours. Alors, pas sur l'album, mais sur ce 45 tours qui était enregistré à part. C'était une session qui a été organisée par John Paul Jones, qui a aussi fait les arrangements du morceau. Et alors, il se dit que Jimmy Page aurait joué sur le morceau et que aussi John Bonham aurait joué sur le morceau. Mais il semblerait que non. John Bonham aurait été pressenti pour participer, mais ce serait plutôt Clem Cattini qui aurait joué de la batterie, qui est une espèce de musicien de studio qui a joué sur des tas de trucs. Qui d'ailleurs, paraît-il, avait été prévu comme batteur de Led Zeppelin quand Jimmy Page a décidé de former Led Zeppelin. Et je ne sais pas pour quelle raison il a été remplacé par John Bonham, ils se connaissaient tous visiblement.
Non, en fait, John Bonham était un très bon copain de Robert Plant, ils venaient tous les deux de Birmingham, ils connaissaient bien les Black Sabbath aussi, hein, ils étaient même coin. Et je crois que Robert Plant l'a amené avec lui.
Oui, ben voilà.
Et alors, Robert Plant avait été recommandé par, comment il s'appelle
Oui, celui qui a refusé.
Terry Reid,
voilà, qui a refusé,
qui avait refusé
le poste,
tu vois. et qui avait dit à Jimmy Page, mais je connais un mec qui chante merveilleusement bien et qui ressemble à un dieu grec. Mais bon, ça n'a aucune importance, qu'il ressemble à un dieu grec. Sans quoi Terry Reid montrait qu'il n'avait rien compris au show business. Et donc Robert Plant s'est pointé à l'audition, mais il avait amené son copain John Bonham avec lui. Et il a dit, je connais un gars qui est batteur, il se débrouille bien, etc. Et finalement, il a convaincu.
Et du coup, Clem Cattini, hop, exit. Mais apparemment, c'était lui, hein, qui était prévu au départ par Jimmy Page. J'imagine qu'il avait...
ça doit être le milieu des musiciens de studio que
et donc ils se connaissaient tous et il devait y avoir plusieurs pistes. C'était quand même une espèce de super groupe qu'il essayait de former. Et donc ce Clem Cattini, c'est marrant parce que je connaissais même pas son nom. Il paraît qu'il a joué sur 45 numéro 1 en Angleterre dans les années 60 et début 70, quoi. C'était un musicien de studio qui jouait avec tout le monde et qui a joué sur un nombre de tubes incalculable, enfin un nombre de tubes énorme. Et en fait, Jimmy Page, il n'aurait pas joué non plus, hein, finalement. C'est pas lui qui ferait la guitare. Mais ça, c'est... Alors là, quand tu lis les témoignages des uns, des autres, ils se contredisent tous. Jimmy Page, il dit un truc, Donovan, il dit autre chose, John Paul Jones dit encore autre chose, il y aurait des courriers qui attesteraient que ceci, puis non, finalement, que ça... Donc, en fait, on n'en sait rien du tout. Mais ce serait peut-être Alan Holdsworth qui serait à la guitare, et un mec appelé Alan Parker, qui était aussi un musicien de studio anglais qui traînait avec toute la bande.
Bon, cela dit, il y a un autre morceau de Donovan, dont je crois que c'est Baraba Jagal, pour lequel, là, c'est marqué sur la couverture du disque, c'est attesté, c'est le Jeff Beck Group de l'époque qui joue derrière lui.
Il avait plein de copains, et d'ailleurs, ce morceau, Hurdy Man, il l'a écrit en Inde, avec les Beatles. Il était parti avec les Beatles,
oui,
tu sais,
le
gourou, machin truc, là. Voilà, pour faire de la méditation transcendantale.
Maharishi,
machin, oui, enfin, je sais plus. Et d'ailleurs, ça s'entend un peu, il y a un petit côté oriental dans son morceau. Et il y aurait un couplet qui avait été écrit par George Harrison. Mais il n'est pas sur le single, ça faisait trop long. Les producteurs ont dit, non, c'est trop long, hop, on va enlever ça. Mais il a chanté quand même une fois, en concert. Il existe un enregistrement où on entend le couplet écrit par George Harrison. Tu te rends compte? Oui, bon, ouais. Et donc, voilà le morceau, c'était un gros tube énorme, hein, Hurdy Gurdy Man. Mais ce morceau, c'est sombre, c'est bizarre. Avec John Paul Jones, ça c'est sûr. Et il y aurait pu y avoir Jimmy Page et John Bonham, mais apparemment non.
Mais aucun joueur de vielle à roue.
Non, c'est pas de la vielle à roue, c'est du... Oh, j'ai oublié. Un instrument indien qu'on entend, et ce serait Donovan qui en joue.
Ah, d'accord. Parce que Hurdy Gurdy, c'est le nom de la vielle à roue.
Dieu merci, il devait pas le savoir.
Alors...
Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peep, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love,
Then when the hurdy-gurdy man came singing song. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.
Hurdy-Gurdy-Man, c'était donc The Hurdy-Gurdy-Man. C'était sur l'album du même titre en 68. En 45 succès de Donovan. Et ce freak-up de guitare quand même, qui est pas mal du tout.
Ça s'énerve bien derrière la guitare. Voilà.
Ce serait peut-être dû, semble-t-il, ce qui est le plus probable, c'est que ce serait dû à Alan Holdsworth, qui était un mec qui a joué à Gong après.
Et qui a été un guitariste de jazz rock bien connu,
oui,
et
voilà.
Qui a joué aussi avec Tempest.
Machine. Tempest, oui.
Ouais.
Et Soft Machine aussi, je crois. Mais après, toute une tripotée de groupes, bien
voilà.
sûr.
Voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que Holly Holsall a rejoint Tempest et je crois qu'Alan Holdsworth n'a pas supporté d'avoir un autre guitariste qui puisse rivaliser avec lui.
Un peu dans le même registre, en plus, enfin. En tout cas, assez comment dire, assez brillant, quoi. Et porté sur les improvisations de jazz. Voilà. C'était Donovan. On s'écoutera une reprise tout à l'heure de ce morceau.
Eh bien, nous allons nous écouter Glo Macari,
ah.
qui a eu une carrière dans le show business. C'était une jeune femme qui venait d'une famille, je crois, assez bien introduite dans le show business, dans la musique et tout ça, et qui a commencé très jeune et qui a fait tout un tas de tubes très légers, ou de pas tubes d'ailleurs, enfin, hein, de morceaux.
Ah, des tubes, j'ai déjà oublié son nom, j'en connais pas beaucoup.
Hein. Ouais. Glo Macari.
Glo Macari.
Celui-ci s'appelle Looking for Love, et c'était en 71, et une époque où commençait à poindre le glam rock. Et donc, on le retrouve dans cette compile qui s'appelle All the Young Drugs, qui est une compile de glam assez rigolote. Glo Macari, Looking for Love.
The Lord.
Chloe Macari en 71, Looking for Love. C'est un petit côté mélange de rockabilly, de proto-glam et de gospel quelque part aussi.
Oui, hein. Un côté bubblegum aussi. Voilà. Ou alors pop 60s, enfin c'est un gros, ouais, un gros, voilà, gloobie-boulga ce truc.
C'est du gospel joué façon bubblegum avec des chœurs rentrent dedans, la batterie vient devant et des choses comme ça. C'est très rigolo.
Eh bien, la compilation s'appelait All the Young Drugs et on va s'écouter une reprise de All the Young Dudes, le morceau de Bowie qu'il avait écrit pour Mozzie Opel et qui figure dans la bande-son de Leto. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film, j'en ai fait des tonnes là quand il est sorti, et c'était déjà quelques années.
Leto, ça veut dire l'été, c'est facile.
Voilà, en russe.
Ouais.
Et c'était ce film sur la scène de Saint-Pétersbourg à la fin des années 70, début des années 80. Et notamment le fait qu'il existait une scène rock'n'roll, qu'il existait même un endroit, un lieu pour que ces groupes rock'n'roll jouent. Alors certes dans des conditions très particulières, mais et puis évidemment pour se procurer des disques, alors c'était très compliqué, mais il y avait des vrais fans de rock'n'roll, des gens passionnés qui s'arrachaient en douce les disques de T-Rex, de Bowie, compagnie, du Velvet. Et après, a émergé assez vite, au début des années 80, une espèce de scène New Wave, et notamment un groupe qui a écrit un morceau qui a été ensuite l'étendard de la Glasnost là, et de la Perestroïka. Donc c'était vachement intéressant ce film. Et dans la bande-son, il y avait un mélange d'originaux, 70s, alors du T-Rex, du Bowie, etc. Et puis des reprises de morceaux de l'époque, mais par des groupes russes. Fait pour l'occasion. Et des reprises souvent un peu bizarres, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles. On a écouté une reprise de Passenger, par exemple. Alors, c'était amusant parce que tout à coup, quand ces morceaux apparaissaient, le film se transformait en comédie musicale. C'est-à-dire que c'était les acteurs ou les figurants qui chantaient. Et donc, ça faisait des versions assez truculentes, on va dire. Alors, voici une de All the Young Dudes qui est très bizarroïde aussi, hein, je te préviens. Hein. C'est pas un groupe russe qui s'appelle Short Paris, apparemment.
Short Paris.
En un seul mot.
To bed, concrete around, over this my head.
Et voilà, une version bizarroïde, hein, je vous ai prévenu. Hein,
ah oui, oui.
De The Young Dudes.
Des Pétersbourgeois, parce que je suppose hein, que ce film se passe à Saint-Pétersbourg.
Oui. Ça, donc, Alors, est-ce que tous les groupes russes en question viennent de là-bas? J'en suis pas sûr. Rappelons que le film, le héros principal, disons, du film, c'est Mike Naumenko, qui est quelqu'un qui a réellement existé. Le film décrit des événements réels, hein, avec des personnages réels.
Pour les groupes d'époque, en tout cas, ça devait être autour de Saint-Pétersbourg, parce que c'est pas si facile que ça d'aller d'un endroit à un autre. Enfin, à l'époque, c'était pas si facile que ça. Et même aujourd'hui, tu sais, les gens de Saint-Pétersbourg, regardent un peu de travers ceux de Moscou et vice-versa. Grosso modo, Moscou, ouais, nous, on est la capitale, et puis Saint-Pétersbourg, ouais, mais nous, on est la ville moderne de Russie. Enfin bref.
C'est sûr qu'il n'y avait sans doute pas un endroit pour jouer du rock, une salle dédiée à la scène rock'n'roll dans toutes les villes du RSS. Hein, c'est probable, parce que là on parle de la fin des années 70. Hein,
ouais.
Si le public devait rester assis, n'avait pas le droit de se lever, etc.
Peut-être qu'à Moscou c'était contrôlé plus sévèrement qu'à Saint-Pétersbourg.
C'est possible aussi, oui.
Bon, c'est pas. Mais je sais que mes collègues mathématiciens, ceux de Saint-Pétersbourg et ceux de Moscou, ils ne se mélangent pas beaucoup. Encore aujourd'hui. Bref. Où est-ce que j'en suis ? Julien Clerc, tu nous as révélé qu'on n'avait jamais passé Julien Clerc. Je n'ai pas vérifié,
j'aurais mieux fait
c'est très vraisemblable. Alors, allez, un peu Julien Clerc.
Pourquoi pas, écoute. Les bébés dinosaures. Ah, je ne t'entends plus.
Voilà, c'est que quand je fais geste avec les mains, je me coupe le micro.
Ah ouais, je vois que Julien Clerc provoque ton enthousiasme.
Mon vrai 45 tours pourri de la soirée. Alors, c'est pas un des morceaux les plus connus de Julien Clerc. Hein. C'est pas La Californie, c'est pas La fille de la véranda, c'est pas Mon cœur volcan. Enfin, tu vois, qui étaient des tubes énormes. Hein, ça, quand j'étais au collège. Il y avait des gens qui les écoutaient, qui les commentaient, ça passait à la radio et tout ça. Enfin. Et c'est vrai qu'au niveau des paroles, en tout cas, c'était des paroles que tu écoutais, que tu réécoutais, que tu essayais de t'expliquer, parce qu'elles étaient un peu plus complexes que celles du tube moyen.
Il n'était pas effectivement dans le créneau de la variété ordinaire, quoi. C'était un peu à part.
Il y avait un continuum entre la variété et la chanson française.
Oui, c'est ça, une espèce de...
Et t'avais des gens que tu savais pas trop comment il fallait les mettre. Alors, ceux qui étaient respectables ou respectables, c'était chansons françaises. Quand c'était, Gérard Lenormand, c'est clair que c'était de la variété.
Et il y avait un entre-deux, quoi.
Mais il y avait un entre-deux, il y avait des gens... Bon, on va s'écouter Carthage. Carthage, c'est un de 45 tours du début... à l'époque, il avait fait un album et puis Pathé Marconi, à sa maison de disques, vendait encore le fait qu'il avait participé à Hair, à la version française de Hair. Mmh. C'est lui qui a chanté Laissons entrer le soleil. Donc, Carthage, voici Julien Clerc. Où en sommes-nous ? Il est là.
Elle a les yeux couleur d'ardoise, le teint clair obscur du lilas. Mon étrange carthaginoise, plus belle que la reine de Saba. Et si contrairement à tout ce que l'on croit, tous nos chemins ne menaient pas à Rome. À Rome. Moi je tomberai dans ses bras. Moi je tomberai dans ses bras, dans ses bras, dans ses bras. Et tous les faubourgs de Carthage résonnent du son de ma voix. Je l'ai connu comme un orage dont la pluie ne viendrait pas. Capitale de l'Europe se rendrait bientôt sans combat. Devant sa beauté triomphante, si seulement elle était là. Et si contrairement à tout ce que l'on croit, tous nos chemin ne menait pas à Rome. À Rome. Moi je tomberai dans ses bras. Moi je tomberai dans ses bras. Dans ses bras. Dans ses bras. Et tous les faubourgs de Carthage résonnent du son de ma voix. Je l'ai connu comme un orage dont la pluie ne viendrait pas. Et si contrairement à tout ce que l'on croit, tous nos chemins ne menaient pas à Rome. À Rome. Moi je tomberai dans tes bras. Moi je tomberai dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Ouais.
Julien Clerc, de la chanson française, souvent assez énergique.
Eh bien, une petite reprise de Hurdy-Gurdy Man, on l'avait promise, par Stevie Lage. Et encore, et toujours sur son album L en 76. Et c'était l'album où il y avait la reprise des Beatles, celle qu'on écoutait la semaine dernière. Et le morceau d'ouverture, c'était cette version de Hurdy-Gurdy Man. Avec aussi une belle partie de guitare, si je me souviens bien.
C'est la moindre des choses. Steve Hillage.
Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.
Très fidèle finalement.
Oui, oui, oui. Je t'ai vu dresser l'oreille là, tu guettais la vie à la roue.
Non, non, je me suis demandé si on s'était pas trompé, carrément au début, c'était tellement comme la version de Donovan.
Ah oui, non, non, bah oui, la partie guitare est assez différente, enfin le solo au milieu, là, vers la fin plutôt.
Oui,
mais sinon, oui, c'est
assez, plus de couches, oui,
c'est, oui, c'est, oui, c'est assez fidèle, effectivement. Ouais.
Eh bien, écoute, il est temps de se réécouter l'album Capsule Trip Horn et America Hip Hop Festival Raw au César.
Vas-y, redis-moi ça. Là,
j'ai... Eh oh, bah, Capsule Trip Horn et America Festival Raw au César. L'œuvre, sinon du tout le groupe Locomotive GT, du moins de sa tête pensante, Presser Gabor, ou Gabor Presser, si on le dit dans l'ordre occidental. Parce qu'en hongrois, on a tendance à dire le nom de famille avant le prénom. Dans lequel on en avait déjà écouté un morceau de ce disque, qui était une des multiples versions de Ringo Shalmogad, qui est le grand tube de Locomotive GT. On va s'écouter un autre morceau qui s'appelle Arra Suselet.
Suselet toi-même, mais oh.
Ah, apparemment, ça veut dire born to be. Born to be, 3 points de suspension. Du moins, c'est la traduction anglaise qui est donnée sur l'étiquette du disque, hein, parce que moi, le hongrois, vous savez. voilà, c'est un disque qui date de 73, un concept album de Presser Gabor, qui était un créateur, qui suivait son chemin, qui était très très productif et prolifique quelque part. Locomotive GT a quand même eu toute une histoire, toute une renommée internationale, alors un peu en Angleterre, puisqu'ils ont fait un festival en Angleterre, mais beaucoup en Pologne par exemple. Certains de leurs disques ont été interdits en Hongrie, mais ils pouvaient sortir en Pologne, alors les Polonais adoraient ça, bon, ça marchait bien. Ok, et je signale pour ceux qui aimeraient ce truc que ce disque-là, hein, tu vas me redire le nom. Tripolt et Guy America Hip Hop Festival Roll. Se trouve pour un prix modique dans une boutique de disques bien connue de la rue du Pharaon.
Ils en ont plusieurs exemplaires ?
Non, ils en ont un. Ah. Celui-ci, comme un couillon, je l'ai payé plus cher et en Pologne. Mais bon. Je ne m'étais pas rendu compte. Que... on y va avec Gabor Presser. Suselet par les membres de Locomotive GT, chanté par Adamis Anna. Donc Anna, c'est son prénom puisque c'est à la fin.
D'accord. Eh bien, on va s'écouter un extrait du Back from the Grave, volume 7. Mm-hmm. Back from the Grave, cette compilation de garage ténueux et obscur qui ont fait la gloire du label Crypt, qui était monté par Tim Warren. Et là, c'est le volume 7, je crois que c'était le premier, qui était un double album. Après, il a moins produit des Back from the Grave, mais c'était souvent des doubles albums. Et c'était lui qui récupérait ces bandes-là, qui travaillait, qui les rééditait, avec des notes sur chaque morceau, pour chaque groupe. Enfin, c'était vraiment des compilations fantastiques, quoi. Et alors, ça accompagnait le revival du Garage 60s. Et il y a plein de groupes des années 80, 90 qui reprenaient les Back from the Grave parce qu'il n'y a que des merveilles quasiment là-dessus. Mais alors, quel rapport avec les bébés dinosaures ? Eh bien, c'est simple, là-dessus on retrouve Spiders, ouais. Le groupe d'Alice Cooper. Alors, j'étais très fier quand j'ai vu que sur le Back from the Grave numéro 7, il y avait Alice Cooper. Et alors, Tim Warren était totalement enthousiaste sur ce 45 tours des Spiders. Ah, il disait que c'était absolument génial, il utilisait ses expressions les plus dithyrambiques pour parler de ces deux morceaux du 45 tours des Spiders. Et on va s'écouter la face B de ce 45 tours. Alors, je crois que les Spiders en ont fait deux, si je me souviens bien, 45 tours. Celui-là, c'est la face B du deuxième, je crois, je sais plus. Ça s'appelle No Price Tag. C'est donc Alice Cooper avec une partie déjà du... Enfin, je crois qu'il y avait quasiment tout le futur Alice Cooper Group, quoi, hein, dans les Spiders, il me semble.
Je ne me souviens plus. Éventuellement, il y aurait peut-être eu le batteur qui est arrivé un tout petit peu plus tard.
Peut-être, ouais. C'est possible.
Il venait d'un lycée différent des autres. Sinon, tous les autres étaient des copains de lycée, en fait.
Voilà, c'était à l'époque, il était dans l'Arizona. Ouais. Ils étaient basés tout seuls dans l'Arizona. C'est donc les Spiders, autrement dit Alice Cooper, dans les 60s.
Your credit card won't work, you see. Not merchandise, no, I'm a man. There ain't no price tag hanging on me. Your mind, it looks oh so nice. Demanding anything you see. But it can buy you shoes and rice. There ain't no price tag hanging on me. Now everybody that has their price. Some will say for currency, but mine is love 'cause it's so nice. There ain't no price to hang it on me. Your pretty clothes, your face so fair. The look that says that you want me. It tells me and I must be well. There ain't no price to hang it on me. You better watch your step. Or else you're gonna mess with me. Thank God I'm not on your layaway plan. You could have thought what work you see. Not merchandise, no, I'm a man. There ain't no price hanging on me. No price tag on me.
The Spiders, voilà, alors, no price tag.
Dans les notes de pochette très précises, toujours de Tim Warren, il indique qui étaient les membres, enfin, quels membres futurs de Alice Cooper Band il y avait dans les Spiders. Il y avait Alice, bien sûr. Il y avait Dennis Dunaway et Glenn Buxton seulement, finalement.
Ouais, Michael Bruce, c'était pas encore...
Ouais. Glenn Buxton était déjà là, c'est vrai que c'était... On retrouve parfois sur certains enregistrements live du début d'Alice Cooper ce son garage de Glenn Buxton. J'étais très impressionné par certaines vidéos. Bon, on voit que c'est lui qui joue. On peut différencier sa guitare de celle de Michael Bruce. Il y avait quand même un style, quoi. Enfin, un son très particulier, agressif. Là. C'était quand même un guitariste assez génial, mais malheureusement, il a moins bien résisté que les autres aux abus de drogues diverses.
Oui, il s'est peut-être envoyé plus que les autres aussi. Hein.
C'est possible.
quelqu'un qui a moins bien résisté. Alors, l'accident de vélo, c'est Phil May. Depuis là, on passe des morceaux de Pretty Things de temps en temps. Et voici tout simplement le premier morceau de l'album SF Sorrow. Sorrow is Born. Mais version publique, enregistrée en public en 69 au Paradiso à Amsterdam. Un club de rock assez connu. Que c'est tiré du coffret Bouquets from a Cloudy Sky qui est sorti il y a quelques années avec l'intégrale en CD des albums des Pretty Things sortis à l'époque, c'est-à-dire il n'y avait pas le tout dernier. Et beaucoup de raretés, enfin beaucoup, un certain nombre de raretés, de choses comme ça, de bonus, de trucs sympathiques, et c'en est un. SF Sorrow is Born. SF Sorrow is Born, donc SF Sorrow qui était le nom du personnage principal de SF Sorrow, l'album des Pretty Things, qui était qu'on considère comme le premier opéra rock sorti avant Tommy.
Premier album concept aussi.
Ouais, ça je sais pas.
Non.
C'est difficile. Je ne saurais pas décider. Qu'est-ce qui est un album concept? Qu'est-ce qui n'est pas un album concept? Le Sgt Pepper était un album concept quelque
voilà,
part.
Ouais,
tu vois,
c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, on va s'écouter Legend maintenant, le groupe de Mick et Jupp, avec le premier album que j'ai découvert. Évidemment, on connaît surtout l'album, le troisième, qui n'a pas de titre, mais qui a une magnifique boots en feu sur la couverture. Évidemment, si on regarde la couverture de celui-là, on aurait du mal à la décrire, et elle n'est pas restée dans les annales. Une espèce de truc bizarre. Et il a été réédité par un label français qui s'appelle Klimt Records, un label parisien, assez récemment. Alors, il cite le line-up du groupe à l'époque. Il n'y a que Mick et Jupp, en fait, qui est en commun avec le groupe qui joue sur le troisième. Hein. Les trois autres musiciens avaient changé. Mais ils ont nommé Mick et Jupp Mick et Jump, avec un MP. Alors, est-ce que c'est une petite faute de frappe ou est-ce qu'il se faisait appeler Mick et Jump sur la pochette d'origine? Je ne saurais dire. Alors, il précise ensuite un peu plus bas, All compositions written by Mick et Jupp. Là, il y a les deux P, donc je penche plutôt pour la petite faute de frappe. Mais bon, on leur pardonnera. Et j'ai découvert un morceau sur cet album que je connaissais déjà. C'est le genre de morceau, tu l'entends une fois, puis après, tu as l'impression que tu l'as connu toute ta vie. Tu sais, tellement il est immédiat et prenant. Alors j'ai longtemps réfléchi, mais comment se peut-il que je connaisse ce morceau de Mick et Jupp alors que j'ai pas ce disque et que bon, Mick et Jupp n'est pas non plus quelque chose qui tourne tout le temps sur mes platines, quoi. Alors, je pense que j'ai une cassette avec le best-of qui avait été fait des trois albums qui s'appelait Mick et Jupp's Legend, je crois, tout simplement. Et c'est sans doute là-dessus que j'ai écouté ce morceau qui s'appelle City. Je crois que c'est un des seuls de cet album qui figure sur le best-of. Il faut dire que c'est assez différent quand même de ce qu'il fera par la suite. C'est un peu plus, un peu folk par moment, un peu d'instrumentation très sobre, un peu blues aussi sur d'autres titres. Mais enfin, ça reste quand même bien écrit. Et puis la voix de Mick et Jupp et des refrains donc assez marquants. Donc un bon disque, mais pas le meilleur. Mais par contre, ce morceau-là, c'est une merveille. Ça s'appelle City. Legend.
Oh, when I go, will you kiss me? When I've gone, will you miss me? Will you write if I send a letter? Every night, or oh,
City par Legend, leur premier album en 69, avec Mick et Jupp, bien sûr, qui composait, qui chantait, qui jouait de la guitare.
Qui jouait le piano aussi.
Ouais, qui était vraiment le chef du groupe. Eh bien, nous allons nous écouter Igor. Enfin, Igor, enfin, c'est E-G-O-R. Et c'est un groupe qui n'a pas eu une longue carrière. On le retrouve, je vous le dis tout de suite, hein, sur la compile I'm a Freak, Baby, qui est une compile de tous les trucs qu'on aime bien, là, de proto-metal, de hard rock du début des 70, de choses un peu jetées, de psychédéliques, heavy, comme on disait, des choses comme ça. Et Igor, donc, on fait ce morceau sur une compile à l'origine. Il raconte qu'il y a un gars qui connaissait pas, qui est venu les voir. Il leur a dit je veux faire un album avec les groupes du coin. Alors les groupes du coin, c'était je ne sais plus quelle banlieue de Londres, je pense. Hein, c'est Leytonstone, qui est dans East London, complètement obscur. Tu vois, alors, il jouait dans un pub qui s'appelait The Plow and Harrow. Le gars leur a dit ouais, je viens, je vous enregistre et je vais faire une compile avec des groupes locaux. Il a fait ça, il les a enregistrés, il est repassé pour donner un exemplaire du disque et puis il a disparu. Le disque a jamais.
Ah bah ils ont eu un disque, c'est déjà bien.
Voilà. Et donc ce truc a été retrouvé et mis sur la compile I'm a Freak Baby. Le morceau s'appelle Street et c'est par le groupe Igor. Donc. We'll be right back.
Eh ben, et non. Bon, ça nettoie les esgourdes. Hein.
Et ouais, voilà. Streets par Igor.
Ils portaient bien leur nom. Hein. C'est assez monstrueux, quand même.
Eh ben, ouais, on sent peut-être que la production a été faite à la va-vite. Hein.
Ah, c'est brut de décoffrage.
Le gars est venu les enregistrer au pub ou quelque chose comme ça.
Eh ben, une mais, petite.
Ouais, c'est, enfin, c'est, ça s'écoute avec plaisir, je trouve.
Une petite rubrique d'Igit avec le dernier album des Super Suckers, qu'on a quand même souvent passé dans les Bébés Dinosaures, puisque c'est un groupe qui avait des affinités 70s et des moments de freak out à la guitare totalement grandiose quand il y avait le guitariste Moni Ronrose qui est parti hélas depuis déjà un certain temps. Et bon, le dernier album était pas mal mais pas extraordinaire, et celui-ci sorti en 2020, Play That Rock and Roll, il est pas mal mais pas extraordinaire non plus. Et quand même, premier morceau à passer qui est en fait une reprise et qui, je crois, est un bonus track là, sur l'album. C'est un morceau que tu connais sûrement, un classique de 61 de Ernie Cado, Certain Girl, et que tu connais repris par quelqu'un d'autre qu'on aime bien au Bébé Dino. C'est un morceau qui a été repris par Warren Zevon.
Ah oui, oui, et puis
oh, il y a des tas d'autres.
Yardbirds l'avait fait.
Il y a des tas d'autres, oui, bien sûr. Ouais. Donc voici la version Super Suckers, une version assez velue, il faut bien avouer.
Les Super Suckers, donc c'est sur le CD3, hein. Attends, non, c'est pas ça.
Que se passe-t-il?
Ça, c'est Rocky Erickson, ça, c'est Bermuda. Donc, il faudrait que tu nous remettes la bonne piste. Voilà. A Certain Girl. Là. Certain Girl.
Le dernier album des Super Suckers, Play That Rock and Roll. Mmh.
Ouais, c'était tout à fait honnête, ça.
Oui, oui, alors, mais il y a des bons morceaux, hein, mais pas de trucs, tu sais, aussi flamboyants qu'ils pouvaient.
Comment ça s'appelait là? Attends, l'album de 2003 ou 5, je sais plus, où il y avait Rock and Roll Records and Selling Records. Vissier, ça c'était génial.
Ah là là, cet album-là, c'est sûrement leur meilleur. J'oublie son titre, mais c'est vrai que celui-là était énorme. Ouais. Et parmi les précédents, il y avait aussi des choses. Mais bon, là, c'est un peu moins marquant. Mais enfin, ça reste tout à fait digne et souvent très velu. Peut-être même le son est encore plus velu sur ces deux derniers albums là, que sur ceux d'avant, plus brutasse, quoi.
Ah ouais. Bon, il y a toujours eu... Parce que c'était... Enfin, il y a aussi un côté country au Super Soccer, mais je suppose que là, c'est plus trop ce qu'ils font.
Bah, ils avaient tendance à... Il y a certains albums où ils mixaient un petit peu ces deux influences, et puis au bout d'un certain temps, ils ont tendance à séparer leurs deux identités. Tu avais le Super Soccer électrique, très velu, et le Super Soccer country qui sortait. Il y a donc eu un album country qui est sorti il y a quelques années, là, qui était bien aussi. Mais peut-être là encore un peu moins inspiré que les premiers. Bon, c'est un peu... C'est un vieux groupe maintenant, les Super Suckers, et donc puis tu sais qu'il y a eu un hiatus là, car leur chanteur a eu un cancer à la gorge.
Ouais.
Il avait été obligé de faire un appel aux dons, bien sûr, pour se faire soigner, mais là il a guéri, il s'est remis, mais il y a eu quand même une période d'un an quasiment là où le groupe était en stand-by, et depuis qu'ils sont de retour, bon, c'est Mounir en Rose est parti, et ça a changé quand même un peu là.
Eh ouais, donc il reste surtout Eddie Spaghetti, quoi.
Voilà.
Le chanteur en question. Est-ce que le titre de l'album qu'on cherchait, c'était pas Motherfuckers Be Trippin'?
Oui, voilà.
C'est celui-là qui est génial.
Celui-là recommandé pour ceux qui...
Motherfuckers Be Trippin'!
Pour ceux qui connaissent pas du tout, ouais, le Super Soccer, de commencer par celui-là. Ouais. Si vous aimez pas, c'est pas la peine de chercher. On peut dire quand même que les premiers Super Soccer, c'était peut-être un peu plus punk.
Ouais.
Un peu plus punk, un peu plus rapide, etc.
Puis ils ont fait assez tôt des albums country comme le fameux Must Have Been High.
Et c'est celui-là le meilleur aussi, voilà. Hein, le premier, effectivement, là, fantastique, fantastique.
Ensuite, il y a eu une version live qui s'appelait Must Have Been Live.
Voilà.
Bon, allez, ben, on parle de country. Ben, justement, on va faire la rubrique fromage de chèvre. Et la rubrique fromage de chèvre, ça va être du country. Et alors, le country ce soir, ça va être Loretta Lynn. Loretta Lynn, qui est toujours vivante, pour autant que je sache, qui a fait quelques années, alors qu'elle était bien vieille, un superbe album avec Jack White. Mais qui a une carrière qui remonte aux années 60 et qui a eu beaucoup de succès dans les années 70. Son histoire est un peu paradoxale parce qu'elle a commencé vraiment comme femme au foyer, avec plein d'enfants, genre un enfant par an. Elle s'était mariée assez jeune. Mais son mari l'a quand même encouragée à faire de la musique et elle s'est émancipée progressivement avec le soutien de son mari qui a un peu joué le rôle de manager, si je me souviens bien. Et je raconte tout ça parce que la chanson de 75 qu'on va s'écouter est en partie autobiographique. Elle s'appelle The Pill et elle explique aux filles disons, c'est raconté par une femme mariée qui dit « Ouh, putain, quel soulagement maintenant qu'il y a la pilule. Les enfants, c'est très bien, mais maintenant, j'en ai quand je veux, quoi. » Et cette chanson n'a pas plu du tout. 75, vous me direz, voilà, bon, c'était le milieu country. C'est toujours, je crois, le milieu country. Comment dire, et pas exactement progressiste. Mm-hmm. Et donc, cette chanson a été censurée sur beaucoup de stations de radio de country. Aux États-Unis. Et elle a fini par quand même sortir, parce que Loretta Lynn était une artiste très connue, et par monter dans les hit parades, mais dans les hit parades de pop, c'est-à-dire pas de country. Les Rednecks, non, ils ne voulaient pas entendre parler de femmes qui contrôlaient leur reproduction. Autre truc pas très rigolo en fait, c'est que ce morceau-là, au début, alors qu'elle l'a apparemment coécrit, elle n'était pas créditée. Et il a fallu qu'elle se batte beaucoup pour faire reconnaître qu'elle avait écrit au moins une partie du texte de cette chanson. Et donc on va se l'écouter parce qu'elle nous la sort avec énergie comme toujours. Et c'est du country rigolo et vigoureux et en même temps un peu revendicatif.
You whined me and dined me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world. But all I've seen of this old world is a bed and a doctor bill. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. This old maternity dress I've got is going in the garbage. The clothes I'm wearing from now on won't pick up so much yardage. Mini skirts, hot pants, and a few little fancy frills. Yeah, I'm making up for all those years since I've got the pill. I'm tired of all your crowing, how you and your hens play, while holding a couple in my arms and others on the way. This chicken's done for up her nest, and I'm ready to make a deal. And you can't afford to turn it down, 'cause you know I've got the pill. This incubator is overused, because you kept it filled. The feeling good comes easy now, since I've got the pill. It's getting dark, it's roosting time, tonight's too good to be real. Oh, but daddy, don't you worry none, 'cause mama's got the pill. Oh, daddy, don't you worry none, 'cause mama's got the pill.
Don't you worry now, mama's got the pill. Loretta Lynn en 75, un de ses grands succès quand même, The Pill, la pilule. Et les bébés dinosaures, c'est terminé. Les bébés dinosaures vous ont assez rempli les oreilles de leurs insanités et de la musique qu'ils passent, mais ils reviendront la semaine prochaine. Si tout va bien, de 21h30 à 23h, ça risque d'être une émission, comment dire, Tommy Boyen. Donc pas mal de wishbolash, hein, méfiez-vous. Et... sinon, vous avez toujours la rediffusion de la présente émission qui devrait avoir lieu dans 8 jours, le lundi 15 juin, si je calcule bien. Et de toute façon, vous avez plein d'anciennes émissions en MP3 que vous pouvez retrouver sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net, qui est peut-être le site sur lequel vous nous écoutez en streaming. Ou peut-être pas, parce que vous nous écoutez peut-être sur les 92.2 MHz, la diffusion hertzienne dans la région toulousaine. On vous encourage à d'ailleurs écouter d'autres émissions de Canal Sud que la nôtre, vous y gagnerez. Et à quand même revenir nous écouter tous les dimanches à 21h30. Et en attendant, on se quitte avec notre classique jingle de fin. Et on vous dit à la semaine prochaine.
To come back. I want him to come back.
Don't go.